Juste pour vous dire en commençant comme ça, bon, bien, bienvenue. On va essayer de faire ça informellement. On serait plutôt incongru d'essayer d'accorder plus de formalité que la circonstance le requiert. Bon, mes camarades d'attaque, je vais commencer par vous dire que dans les dernières manifestations, les organisateurs et les organisatrices de la coalition Échec à la guerre ont demandé aux gens de porter du blanc. D'arriver à la manifestation en portant un ruban blanc, un fanion blanc, une bannière blanche, un drapeau blanc, une chemise blanche. Et puis, on vous dit tout de suite que, même si on est sensible aux considérations qu'il y a derrière cette volonté-là d'une grande paix universelle, et comme nos frères et sœurs de classe, on est tout à fait partisans du projet, pour nous, le drapeau blanc, le ruban blanc, ça ne nous intéresse pas de le porter. Parce que c'est le drapeau de la capitulation, c'est le drapeau de la reddition, et on n'a pas l'intention de capituler devant la guerre, ni de se rendre. Nous, on est plutôt des partisans, avec nos petits nombres, du drapeau rouge de la Révolution, et on respecte ceux qui portent le drapeau noir de la même Révolution. Et ça l'annonce en partant nos couleurs. C'est que s'il y avait eu des pacifistes qui étaient venus aujourd'hui, ça aurait mis les choses au clair tout de suite. Guerre contre l'Irak. Le compte à rebours est avancé. L'attaque est imminente. Comment résister? Au siècle dernier, Karl Marx, dont nous avons commémoré le 120e anniversaire de la mort cette semaine, écrivait « Le capitalisme a en sainte horreur l'absence de profit. Avec un profit raisonnable, le capital devient audacieux. Avec l'assurance d'un profit de 50%, il devient téméraire. Pour 100%, il foule aux pieds toutes les lois humaines et pour 300%, il ne rechigne plus devant aucun crime. » Or, selon nous, selon toute vraisemblance, cette semaine ou la semaine prochaine au plus tard, les armées du capital seront prêtes à commettre tous les crimes et de toute évidence, elles les commettront. Malgré toutes les péripéties diplomatiques des dernières semaines, si la résolution initiale numérotée 1441 de l'ONU est datée du 8 novembre 2002, qui a lancé le compte à rebours d'un nouvel affrontement impérialiste en Irak, la période de manœuvre intensive et d'opposition aux États-Unis est en train de se terminer et malgré quelques postures d'ouverture à ses rivaux impérialistes en Europe et en Asie, la résolution permettra aux USA d'atteindre grosso modo la plupart de ses objectifs. La résolution ne peut, à toute fin pratique, être respectée par l'Irak sans le renversement de Saddam Hussein et sa clique et offrira probablement d'ici quelques jours le prétexte tant recherché pour la guerre. Lorsque les forces américaines seront adéquatement préparées et complètement déployées, la guerre sera déclenchée. Les USA étaient déterminés à faire cette guerre avec ou sans une résolution de l'ONU et agiront avant la fin de la présentation des rapports des inspecteurs de l'ONU. Cependant, c'est la résolution elle-même qui a déblayé la voie à la guerre et qui ne sert que de camouflage au secteur plus intelligent de la classe dominante américaine qui préférait dissimuler leurs motifs rapaces. Maintenant, selon toute probabilité, ils pourront se présenter à une partie de leur propre population comme les gardiens du droit international et de la morale mondiale, tout en pillant la richesse irakienne. L'impérialisme US domine l'ONU. Malgré les tentatives pathétiques de Bush de lier l'Irak à Al-Qaïda et le dossier de sécurité tout aussi pathétique présenté par Blair, la résolution de l'ONU fut approuvée à l'unanimité. Même la Syrie, qui est présentée comme faisant partie de l'axe du mal, qui pourrait être une prochaine cible, a voté pour. Cela démontre toute l'influence que les Américains sont capables d'exercer sur les autres membres du Conseil de sécurité grâce à leur puissance économique et militaire. La bravade France, Allemagne, Russie n'est rien d'autre qu'une tactique dilatoire pour négocier à la hausse leur part de la rapine et leur ouvrir de nouveaux marchés, principalement dans le monde arabe. Tous les membres temporaires du Conseil de sécurité, à l'exception de la Syrie, dépendent du marché US pour leurs exportations. Ils reçoivent aussi de l'aide étrangère ou de l'assistance militaire des États-Unis. Pour ce qui est des membres permanents du Conseil de sécurité comme la France, la Russie, la Chine, qui ont tous des intérêts substantiels en Irak, on va voir ça tantôt, leurs votes sont soumis à l'encan et sont accordés selon leurs bons intérêts. Ceux et celles qui me trouvent trop cynique n'ont qu'à penser au Rwanda, où il ne faut pas oublier, la France a joué un rôle extrêmement important dans le génocide sous la présidence, sous la gouverne du fameux président socialiste François Mitterrand. Pour la France, à la Tchétchénie pour la Russie, je pense que personne n'a oublié les scènes du théâtre à Moscou dans la période des fêtes. Il y a un maudit paquet d'affaires pour la Chine. Les États-Unis sont partis de la position que ce sont eux seuls qui décideront de tout une fois installé le nouveau régime irakien. Ils pourraient ainsi acheter leur rivaux avec le butin de guerre. Si ces pays désirent maintenir les immenses concessions pétrolières accordées par le régime de Saddam, et si la Russie désire se faire rembourser sa mise de 8 milliards de dollars, ils devront éventuellement se soumettre. En cas de collaboration tacite, ils conserveront ce qu'ils ont, sinon tous les contrats seront déchirés. Ainsi, par des menaces et de l'intimidation, les USA ont obtenu la résolution 441. Les transactions tordues qui ont lieu depuis ce temps-là ne sont que les détails croustillants qui ne font que confirmer la thèse marxiste élémentaire que les institutions internationales comme l'ONU, et auparavant elle, la fameuse Ligue des Nations, n'expriment que les intérêts des puissances impérialistes majeures ou alors elles perdent leur raison d'être, comme par exemple dans la période de la guerre en Abyssinie et en Éthiopie par l'impérialisme italien de Mussolini dans les années 30. C'est là qu'est morte la Ligue des Nations. Les ultimes divisions au Conseil de sécurité des dernières semaines ne font que démontrer qu'en temps de crise, l'unité de la bourgeoisie internationale est relative et sa contradiction absolue. L'action audacieuse de l'impérialisme américain. L'invasion de l'Irak est un geste audacieux de l'impérialisme américain qui interpelle sérieusement ses rivaux impérialistes. Même s'ils n'osent pas pour l'instant relever ce défi hautain, ils s'opposent autant qu'ils le peuvent à ses ambitions. Ainsi, l'ambiguïté de la résolution 1441, requérant un débat au Conseil de sécurité en cas de violation à la résolution et le besoin d'entendre les inspecteurs, posait les bases d'un travail de sape quant à la légalité à venir de l'intervention américaine. Cela n'empêchera pas les Américains de faire ce qu'ils entendent, mais, on le voit maintenant, ça peut les embêter. En se distançant le plus longtemps possible de l'invasion, la France, l'Allemagne et la Russie espèrent profiter des bouleversements inévitables que l'invasion provoquera dans le monde arabe. Pour les USA, la situation est plus problématique qu'en Afghanistan à cause de la possibilité de la balkanisation de l'Irak une fois la dictature de Saddam renversée. Les Kurdes du Nord, qui sont majoritaires en passant, comme les chiites du Sud, les deux ensemble sont la majorité plutôt, entendent se séparer de l'Irak, comme l'ont démontré les rébellions à la fin de la guerre du Golfe de 91. Les USA reconnaissent cette possibilité et l'ont indirectement encouragée par la construction des zones d'interdiction aérienne dans le Nord comme au Sud pour protéger ces groupes. Ils devront maintenant étouffer ces ambitions locales, car toute concession au nationalisme kurde précipiterait une guerre et des massacres au Nord, entraînant à la fois la Turquie et l'Iran, et un État indépendant des chiites au sud s'orienterait vers l'Iran, ce qui n'est pas du tout dans les plans de Bush, on peut l'imaginer. Les ambitions bourgeoises des Kurdes et des chiites se reflètent d'ailleurs dans les divisions internes de l'opposition à Saddam. Tout cela va rendre beaucoup plus difficile la constitution d'un régime fantoche comme celui monté de toutes pièces en Afghanistan. En cas de guerre civile, l'appui à une de ces factions par la Syrie ou l'Iran pourrait précipiter une invasion et une occupation de ces pays aussi. N'oubliez pas qu'ils figurent à bonne place dans le fameux axe du mal défini par Bush après le 11 septembre. Et on peut imaginer aussi que Bush est relativement inquiet par l'apparition possible de Shorad, c'est-à-dire de conseils ouvriers, comme est apparu après la première guerre du Golfe il y a une douzaine d'années. Un tel scénario mènerait à l'occupation américaine de toute la région nord du Golfe Persique. De même, le massacre encore plus grand d'Irakiens, produit par l'invasion, pourrait avoir de sérieuses répercussions sur les rapports des USA avec ses alliés, la Jordanie, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Les relations avec l'Arabie saoudite se sont grandement détériorées depuis le 11 septembre 2001, et certains conseillers américains ont même exigé des frappes contre l'Arabie, ou à tout le moins un changement de régime. Des hommes d'affaires éminents et des individus de ce pays sont face à des poursuites en dommages totalisant 1 000 milliards US par des victimes du 11 septembre. Et pour faire en sorte qu'ils ne se fassent pas tout arracher, ils ont retiré à date 200 milliards de dollars de leurs investissements américains. Il n'est d'ailleurs pas encore clair que l'Arabie saoudite approuve une attaque sur Bagdad avec ou sans résolution de l'ONU. Dans la tourmente des événements et la possibilité d'attaque contre les intérêts américains en Arabie saoudite, l'avenir de son régime monarchique demeure incertain. L'aventure militaire américaine n'est donc pas sans péril. Les conseillers politiques US parlent de la nécessité d'une restructuration de toute la région du Moyen-Orient, ce qui démontre qu'ils et elles sont tout à fait au courant des risques. Qu'est-ce qui les amène donc à adopter une stratégie aussi risquée? Et on en arrive donc aux véritables raisons de la saignée, parce qu'il s'agit d'une saignée qui va avoir lieu cette semaine ou la semaine prochaine. La classe dominante américaine nous a fait valoir toute une série de raisons pour justifier ses actions. La nécessité de respecter le droit international et les résolutions de l'ONU, l'élimination du terrorisme irakien et ses liens avec Al-Qaïda, la destruction des armes de destruction massive et le reste et le reste. Ce sont tous des mensonges, mais puisqu'ils sont constamment répétés par les grands médias, ils ont eu un certain impact dans la population at large. Et souvenez-vous des fameuses consignes du Dr. Goebbels sur plus grand le mensonge, plus que des chances d'être répercuté et d'être cru. Il convient donc d'examiner ces arguments avant d'en arriver au véritable motif derrière l'action américaine. Si les USA prenaient au sérieux le besoin de respecter le droit international, ils ne traiteraient pas ce droit international avec un tel mépris. Ils n'ont jamais considéré que ce droit s'appliquait aussi à leur propre pays. Autant les campagnes du Kosovo que de l'Afghanistan ont été menées en flagrante violation du droit international. Il faut se souvenir que les USA sont le seul pays dans l'histoire condamné pour terrorisme dans un jugement de la Cour internationale et ont dû opposer à l'époque leur veto à une résolution de l'ONU condamnant leur appui à des forces terroristes qu'on appelait les Contras à l'époque au Nicaragua pendant la présidence de Reagan. Il refuse aussi de s'inscrire à la Cour criminelle internationale instituée par l'ONU en juillet 2002 pour éviter d'y voir condamner leurs propres militaires à l'avenir. Et s'il faut respecter les résolutions de l'ONU, pourquoi tout ce silence complice face aux nombreuses résolutions réprouvant l'annexion des terres palestiniennes? Et le terrorisme dans tout cela? Eh bien, non seulement le prouve-t-il, mais de plus, il l'emploie ouvertement. Depuis le 11 septembre, la CIA a reçu l'autorisation d'assassiner les ennemis des USA dans tous les coins de la planète. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait au Yémen récemment, en écrabouillant un groupe de suspects grâce à un missile lancé par un avion robot. C'est là, bien sûr, un événement mineur, évidemment, sauf pour le monde qui se sont fait écrabouiller. Lorsqu'on le compare à d'autres opérations de déstabilisation menées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme la baie des cochons à Cuba ou contre le fameux gouvernement Arbenz au Guatemala, si je ne me souviens pas, c'était en 1963 ou 1964. Toutes les puissances impérialistes se servent de terrorisme dans le cadre de leur activité politique normale. La fameuse France, dont les gens sont fiers de porter le drapeau dans les manifestations pacifistes à Montréal de ce temps-là, a fait la même chose avec le Rainbow Warrior, où il y avait eu un mort, là, je ne me souviens plus, c'était en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Autour des explosions nucléaires, les tests nucléaires qui font dans le Pacifique Sud, Nouvelle-Zélande. Mais personne ne le fait mieux que les États-Unis. L'argument que le régime de Saddam est maléfique et que ses armes constituent une menace à l'humanité est risible et hypocrite. Souvenons-nous que Saddam, comme Ben Laden, sont des créations américaines et furent leurs alliés précieux pendant plus d'une décennie. Saddam a été leur principal instrument pour contrôler le Golfe et neutraliser l'Iran. Ce sont eux qui l'ont encouragé à attaquer l'Iran à l'époque, et c'est une guerre qu'on pense qui a fait 1 million de morts. Et c'est ce bon Donald Rumsfeld qui fut envoyé par Reagan pour officialiser leur entente, tandis que c'est Bush père qui le subventionna de 1,5 milliard de dollars US, et puis qui a envoyé la marine américaine dans le Golfe pour protéger les navires de Saddam contre la marine iranienne. Voilà donc la petite histoire de l'attitude américaine envers un homme qu'ils accusent maintenant d'être un nouvel Hitler ou un nouveau Staline. Et puis, tout ça, c'est arrivé après le fameux gazage des populations kurdes à Halabja. Donc, quand ils disent aujourd'hui, c'est un salaud qui a gazé les populations, eh bien, c'est un salaud qui a gazé les populations en toute connaissance de cause, parce que c'est les Américains qui lui ont vendu les gaz pour le faire, et puis ça les a pas empêchés de continuer à l'appuyer par la suite. Et ce n'est pas tout. Nous savons, grâce à un témoignage au Congrès US, que c'est l'armée américaine qui lui a fourni des quantités de virus du Nil occidental, de colis, de charbon, de botulisme. Le charbon, c'est ce que les Américains appellent anthrax. De botulisme et un cyanogène qu'on évalue à 1 million de fois plus mortel que le gaz sarin. Le gaz sarin, c'est ce que la secte folle religieuse a utilisé dans les métros de Tokyo il y a quelques années. Aujourd'hui, ce même dictateur sert de prétexte à l'invasion de l'Irak et le rap de ses richesses. La grande question n'a jamais été si Saddam possède des armes de destruction massive, mais bien plutôt s'il s'en servirait pour faire avancer les intérêts américains dans la région. L'inquiétude sur la présence de ces armes dans la région devrait plutôt se porter sur l'arsenal probablement beaucoup plus important d'Israël, incluant la bombe atomique en passant, qui refuse de signer tout traité de non-prolifération nucléaire ou de contrôle des armes biologiques ou chimiques. Ces armes, ne l'oublions pas, sont toujours fabriquées en masse aux États-Unis même. Dans une déclaration de politique étrangère émise par le Congrès en septembre 2002, on prône même, et ça a été voté, l'usage de mini-bombes nucléaires, des bombes, en fait, la vraie expression, c'est des bombes nucléaires intermédiaires, mais je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, intermédiaire. Dans les futures guerres préventives, nouveau concept de la bourgeoisie, les guerres préventives, nous avons aussi tous vu cette semaine la présentation obscène de la MOAB, la Mother of All Bombs, la nouvelle bombe conventionnelle de 23 000 livres, finalement. Je pensais que c'était moins ça, c'est 23 000 livres. Devant un tel étalage de mensonges et d'hypocrisie, camarades, il m'arrive de vouloir m'incliner, mais c'est pour mieux vomir. Les véritables motifs de l'action américaine contre l'Irak sont bien sûr leurs objectifs impérialistes. En premier lieu, leur approvisionnement en pétrole et le contrôle de l'approvisionnement de ses rivaux. En second lieu, contre toute menace à leur hégémonie comme puissance impérialiste mondiale suprême. Cette action, comme tous les événements majeurs en société capitaliste, est dictée par les nécessités de l'impérialisme, qui ne sont que l'expression des besoins du capital. La véritable menace contre les USA n'est pas Saddam ou même Ben Laden, mais bien la crise économique qui secoue présentement l'économie américaine. La consolidation du contrôle américain sur les ressources pétrolières du Moyen-Orient et l'ouverture de nouvelles bases de ressources à long terme seraient d'un grand bénéfice aux États-Unis. Cela pourrait fournir une solution à court terme à la récession US actuelle. Idéalement, ce qu'ils recherchent, c'est du pétrole à bon marché pour eux et la restriction des fournitures pour leurs rivaux, ce qui causerait une hausse de leurs coûts énergétiques et donc de leurs coûts de production. Donc, évidemment, ça impliquerait que les produits français, allemands, russes, chinois, japonais coûteraient plus cher sur le marché que les produits américains. Et donc, évidemment, c'est ces produits-là qu'on achèterait. L'occupation de l'Irak, la saignée du peuple irakien, c'est pour ça. Les USA sont le plus grand consommateur de pétrole sur la planète et ils brûlent un quart du liquide produit chaque jour. Le pourcentage de cette ressource qui doit être importée augmente constamment et totalise aujourd'hui 55 % de ses besoins. Environ 9 millions de barils par jour, c'est pas de la tarte. Le chiffre était de 36 % lors de la crise du pétrole de 1973, donc on peut voir qu'il y a une croissance importante de leurs besoins. Et puis, il accapare une partie croissante de la ressource à l'échelle mondiale. Malgré toute une série de manœuvres et de diversification de sources d'approvisionnement en Afrique occidentale, en Amérique centrale et en Russie, tout nous porte à croire que le Moyen-Orient sera une source stratégiquement importante de l'or noir pour une très longue période encore. Cela vient du fait que les 5 pays ayant les plus grandes réserves du pétrole au monde sont tous situés dans la région, et que l'Irak possède la deuxième plus grande réserve de ressources connues, soit 112,5 milliards de barils. Et là, quand on dit ça, il faut prendre en considération que ça fait 12 ans qu'il n'y a eu aucune exploration nouvelle en Irak, de sorte que plusieurs spécialistes pensent que les réserves irakiennes sont possiblement supérieures au grand lac de pétrole de l'Arabie saoudite. Ça peut expliquer bien des choses. C'est donc inévitable que les intérêts à long terme des USA seraient grandement aidés par une présence accrue autour du Golfe. Je vous rajouterai une petite note verbale. Il y a un facteur très secondaire, mais qui dans la région prend aussi beaucoup d'importance. Et c'est quelque chose que dont j'ai appris la connaissance il y a très peu de temps. En fait, c'est dans un texte du romancier américain Norman Mailer que j'ai lu ça. C'est qu'il ne faut pas oublier que dans tout le proche, le Moyen-Orient, l'eau, c'est quelque chose de fondamental. Il n'y en a pas. Sauf l'immense bassin fluvial que constitue toute la surface irakienne et les fameux marais au sud. Il ne faut pas oublier que dans l'Ancien Testament, ceux d'entre nous, comme moi et Claude, qu'on a été élevés là-dedans, puis peut-être Réal, le fameux Tigre et l'Euphrate, c'est les deux grands fleuves où les théologiens pensent que s'il y a eu un Éden un jour, le paradis terrestre, c'était là. C'est pas pour rien, parce qu'avec tous ces affluents, c'est la seule zone de toute la région qui est naturellement fertile, ce qui explique d'ailleurs que la continuation des grands empires et des grandes civilisations perses de l'époque jusqu'à aujourd'hui dans la région, Et les Américains ont tenté de convaincre Saddam dans les années 80 d'accepter quelque chose qu'ils ont eu évidemment encore là, le grand cynisme d'appeler le Peace Pipeline, le pipeline de la paix, qui acheminerait l'eau irakienne vers les grands Émirats du Sud, qui sont des alliés des Américains, et aussi évidemment vers Israël. Donc, ce n'est pas le facteur principal, c'est un facteur secondaire, mais c'est quelque chose dont, en tout cas, moi, j'avais à peu près pas entendu parler. Aujourd'hui, la production irakienne est restreinte par les sanctions. La production totalise 3 millions de barils par jour, mais seulement le tiers, à peu près, des champs pétroliers sont présentement exploités. Il manque de pièces. Cependant, un rapport de la Deutsche Bank estime qu'une nouvelle capitalisation pourrait rapidement porter la production à 7 milliards de barils par jour. Si une telle quantité de pétrole pouvait inonder les marchés, les prix subiraient une baisse au niveau de ceux des années grasses de 90. Si cette croissance de la production pouvait être contrôlée par les USA, elle pourrait accroître la rentabilité du capital américain et sortir l'économie de son état de crise. De plus, si les USA pouvaient s'assurer un accès préférentiel face à ses rivaux, ils amélioreraient leur compétitivité. Tous ces objectifs sont à moyen terme, mais à long terme, il s'agit de gagner l'hégémonie sur la ressource et sa circulation pour menacer et désavantager ses rivaux européens et asiatiques. Et on va maintenant aborder la question de ces fameux rivaux, le fameux héros du peuple arabe qui est Jacques Chirac notamment. Les rivaux des Américains ont récemment tenté d'accroître leur commerce avec l'Irak et accaparer à leur tour la richesse pétrolière. Les États environnants avaient eux aussi accru le commerce, avec pour résultat que le régime de sanctions s'écroulait graduellement. La vente de pétrole s'effectuait hors des limites imposées par l'ONU à la Turquie, la Syrie, la Jordanie et l'Iran, tandis que la Syrie et l'Égypte avaient mis en place des zones de libre-échange avec l'Irak. Il en résulta une grande croissance du commerce irakien. C'est pour ça que depuis 1991, notamment, la bourse de Bagdad a augmenté son chiffre d'affaires de 1000%. Depuis 10 ans, même si des dizaines de milliers d'enfants irakiens sont morts, la classe capitaliste irakienne, il ne faut pas oublier qu'il y a une classe capitaliste irakienne, ce n'est pas juste Saddam là, comme méchant personnification du mal, la classe capitaliste irakienne a fait des affaires fabuleuses sur le dos de leur peuple aussi. Donc, contrairement aux trotskistes et aux maoïstes qui disent qu'il faut appuyer de façon critique le régime irakien, comme communistes de gauche, nous, on dit, on n'a pas à prendre position entre deux gangs de ce type vautour. Au grand désagrément de Bush et de son lieutenant Blair, la France, la Russie et la Chine négocièrent des ententes avantageuses avec l'Irak et commençaient aussi à revendiquer la levée des sanctions. Et les USA et la Grande-Bretagne, les autres, ils continuaient à bombarder pendant ce temps-là, c'est qu'il n'y a jamais été question d'entente avec eux autres. Même si Dick Cheney, lui, par exemple, le vice-président des États-Unis, jusqu'à 1999, a continué à leur vendre des pièces. Les États-Unis et leurs compagnons de route britanniques ont tenté de circonscrire l'action de leurs rivaux en introduisant un nouveau régime de sanctions, ce qui a rempli, encore là, la bourgeoisie est vraiment intelligente, des « smart sanctions », des sanctions brillantes. Ce plan échoua lorsque les voisins arabes refusèrent de l'appliquer, à moins que les USA agissent pour faire cesser le massacre des Palestiniens en Cisjordanie dans la bande de Gaza. Lorsque les États-Unis montrèrent qu'ils ne voulaient rien savoir de la démarche, l'Irak se crut en bonne position de profiter de la crise régionale pour se libérer complètement des sanctions et réarmer. Cela ne fit qu'exacerber la furie de Washington et le désir de bloquer les avancées irakiennes. Le 11 septembre arrive alors, et il a fourni le prétexte voulu pour renverser la situation par la force. L'attaque du 11 septembre a créé un nouvel ennemi, le terrorisme, et une nouvelle idéologie, la guerre au terrorisme. Cette guerre a remplacé la guerre froide comme outil de ralliement de la bourgeoisie américaine et a constitué un front, une bannière derrière laquelle elle peut embrigader les alliés réticents. Malgré le primitivisme de cette idéologie et les faibles tentatives de Bush et ses plumitifs de lier l'Irak à la terreur et à Al-Qaïda, ce pays est maintenant devenu la première cible de la guerre sans fin contre le terrorisme. C'est comme ça que Bush l'appelle, hein? La guerre sans fin. La guerre d'agression contre l'Irak est présentée comme une mesure d'autodéfense par les USA. Le Congrès et l'ONU ont de fait autoriser Bush à saigner le peuple irakien. En toute confiance et sérénité, les impérialismes américains et britanniques ont déjà cyniquement ouvert des négociations sur les droits pétroliers avec certains des futurs dirigeants de l'Irak, tels Chalabi du Congrès national irakien. Ces négociations-là ont commencé en novembre. Qui prend quoi? C'est ça le niveau des négociations. Dans ce spectacle sordide, nous percevons la réalité de la présente campagne. Les prêcheurs arrogants de la moralité et du droit international ne sont qu'une bande de câlisses de voleurs se disputant le butin d'un adversaire bientôt terrassé. Maintenant, on va parler du fameux mouvement pacifiste. Vous allez peut-être nous trouver un peu dur. Comme on peut le constater par ce très bref examen des forces en présence, cette guerre est un produit de l'impérialisme. Son origine immédiate découle de la crise économique étouffant le capitalisme US et ses motivations à long terme sont l'approvisionnement futur en pétrole et le contrôle de l'approvisionnement en pétrole de ses rivaux. La guerre est donc un produit du capitalisme et le capitalisme en est sa cause fondamentale. La gauche communiste italienne, qui est la tradition sur laquelle se base notre petit groupe et notre tendance, a toujours argumenté que la résistance à la guerre impérialiste devait se baser sur l'opposition au capitalisme lui-même. Au Québec, nous ne faisons pas partie des coalitions telles Échec à la guerre, et d'ailleurs, on ne fait partie de coalitions de ce genre-là nulle part où nous sommes présents sur la planète, à cause de leur refus de combattre le conflit sur une base de classe. Il ne faut surtout pas diviser le mouvement. Il ne faut surtout pas dire la vérité. Cela ne peut mener qu'à des conceptions erronées et des mensonges sur la guerre en général et la guerre en Irak en particulier. À chaque manifestation, nous entendons des orateurs et des oratrices nous dire qu'il nous faut opposer aux valeurs guerrières américaines les valeurs pacifistes québécoises. À Toronto, c'est les valeurs canadiennes, OK? Aux États-Unis, nos camarades y entendent des discours similaires qui proclament que la lutte à la guerre passe par la défense des valeurs américaines, que la dissidence est une valeur américaine et que les véritables patriotes américains sont ceux qui s'opposent à la guerre. En passant ici, un petit mot sur l'inqualifiable comportement de Bernard Landry, qui se pète les bretelles. La seule chose qu'il trouve à dire par rapport au prochain massacre des populations, c'est de dire qu'il y a plus de monde aux manifestations à Montréal qu'à Toronto. Okay? Et puis qu'on est les champions mondiaux du pacifisme. Eh bien, s'il avait lu les journaux cette journée-là, il serait rendu compte qu'en Australie, proportionnellement, il y avait 6 fois plus de manifestants qu'au Québec, qu'en Espagne, il y en avait 5 fois plus. Et qu'avant d'être les championnats du monde de quoi que ce soit, il y aurait beaucoup d'eau qui passerait sous les ponts. Et que, franchement, s'il y a une chose qui me scandalise quand je vais aux manifestations, et on est allé aux 4 manifestations contre la guerre, incluant la première en novembre, où on était 2000 dans ce loge, c'est des gens qui apportent des drapeaux nationaux dans les manifestations internationalistes, des drapeaux qui proclament la nation au moment où on devrait plutôt proclamer l'humanité. Ça, personnellement, ça m'achale. Hein? Je suis d'accord. Donc, en fait, nous croyons que tel qu'il est présentement, le mouvement pacifiste fait partie du jeu, du spectacle, de la dynamique de guerre. Pourquoi qu'on dit ça? On y croit que la paix viendra d'une sorte de conversion, un retournement d'opinion de nos dirigeants et dirigeantes. Avant les 2 dernières guerres mondiales, il y avait eu des mouvements internationaux massifs qui se sont basés aussi sur une telle approche. Je parle ici, entre autres choses, de la Ligue pour la neutralité qui a organisé des manifestations tout aussi importantes à la fin des années 30, un peu partout dans le monde, que ceux qu'on connaît présentement. À chaque occasion, ces mouvements ont bénéficié d'un appui populaire massif, mais chacun de ces mouvements a fini par capituler et se ranger du côté de la guerre impérialiste. Et ici, je ne parle pas de ceux qu'il y a pu avoir, par exemple, au Québec, dont on connaît les couleurs politiques fascisantes. La faiblesse principale de ces mouvements est qu'ils nous font croire que le rêve d'un capitalisme sans guerre est une possibilité. Comme nous l'avons vu plus tôt en soirée, en après-midi, tiens, c'était à Québec, ce speech-là. La guerre n'est pas causée par la méchanceté des Bush, Blair ou Saddam et le reste, mais plutôt par les lois et les mécanismes du capitalisme lui-même. La série de guerres barbares en cours, qui débuta avec la guerre du Golfe de 91, n'est que la nouvelle phase des conflits impérialistes qui ont ravagé la planète de 45 à 90. Plus de 50 millions d'êtres humains ont été tués après la Deuxième Guerre mondiale, dans la période de paix. Les guerres impérialistes continueront donc aussi longtemps que règnera le capital. C'est là une vérité vérifiable et concrète. Picaliste, hostie, c'est ça que l'analyse du 20e siècle nous enseigne. Christ, on aimerait ça être moins radicaux, mais c'est ça que toute l'histoire nous enseigne. C'est vérifié, c'est vérifiable. Les guerres ne finissent jamais parce que la classe dominante se rend compte de la méchanceté ou de l'irrationalité de son action, comme le laissent entendre les diverses coalitions pacifistes. Il y a seulement un cas dans l'histoire du capitalisme où le capitalisme a changé d'opinion, entre guillemets. Et ce fut à la fin de la Première Guerre mondiale. Ce ne fut pas suite à un éclair de conscience ou un mouvement du cœur, mais bien parce que son règne était menacé par une révolution prolétarienne à travers l'Europe. Ce mouvement fut marqué par des grèves, des mutineries. Pensons au chemin des Dames en 1917 en France, où le maréchal Pétain a fait ses preuves en fusillant tous les mutins. Pensons aux marins qui, à Hambourg, ont refusé de quitter le rade, puis qui ont fusillé leurs propres officiers qui leur ordonnaient d'aller faire une dernière sortie d'honneur là, contre la flotte britannique, et le reste, et le reste. C'est des choses, je pense, c'est des rappels historiques, je pense, qui méritent largement d'être faits. Et finalement, par la Révolution russe de 1917, celle de février comme celle d'octobre. Cela causa toute une panique dans la classe dominante qui décida alors de repenser son affaire. Puis une dernière chose quand même sur la guerre de 1914-18, parce que c'est le seul véritable exemple qu'on a, c'est que c'est la seule fois dans toute l'histoire de l'humanité que l'armée qui est à 100 000 à l'intérieur du territoire d'un autre, c'est-à-dire l'armée allemande, est à 100 000 à l'intérieur du territoire français et est à 50 km de Paris, se rend. Pourquoi qu'elle se rend? C'est elle qui est dans le territoire ennemi. Elle se rend parce que ses troupes refusent de tirer. Il y a fraternisation des soldats. Puis à l'intérieur des lignes allemandes, les ouvriers, les ouvrières, après 4 ans, ont finalement commencé à appliquer le mot d'ordre du défaitisme révolutionnaire, qui n'est pas seulement celui de Lénine, mais des minoritaires anarchistes de Rosa Luxembourg, des minoritaires social-démocrates de l'époque comme Karl Liebknecht, et ils ont commencé à appliquer le défaitisme révolutionnaire. Lutter contre la classe dirigeante chez nous, puis comptons sur nos frères et nos sœurs dans l'autre pays pour faire le même job à leur place. Je pense que c'est un rappel important. Une vague révolutionnaire est donc la seule approche sûre qui peut mettre fin à une guerre. Notre groupe veut travailler, le groupe internationaliste ouvrier, on veut travailler avec toutes les forces qui se retrouvent sur le terrain de la lutte des classes contre la guerre. Nous applaudissons les camarades qui défilent sous des bannières qui proclament « pas de guerre entre les nations, pas de paix entre les classes ». Puis ça, vous le savez qu'à Montréal, c'est des anarchistes. Nous cherchons à développer au Canada et à travers le monde un courant qui s'inspire du slogan « notre seule guerre, la guerre de classe », en alliance avec tous ceux et celles qui sont prêts à lutter contre le courant majoritaire et pour une riposte classiste à la guerre impérialiste. Les luttes ouvrières, même locales, doivent être soutenues plus que jamais. Ce n'est pas pour rien que Blair et ses acolytes ont accusé les pompiers britanniques en grève d'être des larbins de Saddam et d'avoir voté une loi spéciale pour les forcer de retourner au travail. Et que Bush a fait de même pour les débardeurs en grève de la côte ouest américaine en déclarant qu'ils sabotaient la guerre contre le terrorisme. Et puis là aussi, il y a eu une astuce de loi matraque pour les forcer à retourner au travail. Le pouvoir de l'État a plus tard forcé le retour au travail de ses camarades. Chacune de ces actions illustre le seul vrai chemin permettant de s'opposer à la guerre. Bien sûr, ce sont là des cas isolés. Et nous savons que seul un mouvement massif de la classe ouvrière, qui est présentement fort endormi, peut vraiment prévenir la guerre. N'oubliez pas qu'en Europe, en 14, ça a pris 4 ans de massacre avant de la réveiller. Cependant, ils peuvent être un pas dans la seule voie qui peut stopper la guerre, la voie de la révolution. Eh bien, camarades, c'est sur quoi on conclut, c'est notre guerre à nous autres, notre seule guerre, c'est la guerre de classe contre toutes les rapaces, contre tous les vautours qui nous exploitent, qui nous saignent et qui rendent nos vies vraiment irrespirables. Pour faire changer la vie de nos dirigeants et dirigeantes, il faut donc nier la guerre de classe. Le premier élément de la conduite de cette guerre doit être l'adoption de la tactique du défaitisme révolutionnaire face aux guerres impérialistes de la bourgeoisie. Ça a été la politique qui a été mise de l'avant par Lénine et la gauche gimmerwaldienne, mais aussi les minorités socialistes et anarchistes. Quand je parle des anarchistes, c'est la minorité de la CGT avec des camarades comme Pierre Monat et d'autres qui ont participé à cet effort-là en 1914 et qui a commencé à porter fruit 3 ans plus tard. Trotsky, une petite anecdote là-dessus en passant, pour se rendre à Zimmerwald, qui est un petit village en Suisse, qui était un territoire neutre à l'époque, Trotsky disait que l'ensemble des délégations anarchistes minoritaires et social-démocrates minoritaires, ils rentraient dans 3 taxis. Donc, ils sont débarqués du train, ils sont embarqués, ça a pris 3 taxis pour les rentrer dedans. Et puis, ça a pris 3 ans, puis ça a pris une grande expérience négative dans sa chair, il a fallu que la prolétariat souffre dans sa chair pour que le programme commence à rentrer. En début de ce nouveau millénaire, cette tactique, à notre avis, conserve toute son actualité. Le défaitisme révolutionnaire doit être notre axe d'orientation, notre cri de ralliement. Le choix devant nous n'est pas garoupet, encore là, vous allez nous trouver délirant. L'alternative réelle est bien plutôt celle de la guerre impérialiste ou la guerre civile, et nous, on est partisans de la guerre civile. La paix durable ne peut être assurée que par le renversement du système capitaliste et l'établissement d'un système basé sur la socialisation des moyens de production, un système qui déterminera la production à réaliser en fonction des besoins humains. Gros programme, me direz-vous, en effet. Certainement, mais c'est la condition même de la paix sur cette pauvre terre. Si tu es contre la guerre, puis si tu sais que le pacifisme d'un petit bourgeois te permet pas de l'empêcher, à ce moment-là, si tu veux faire de quoi, tu as le choix en deux choses. Aller te coucher ou te battre. Mais si tu te bats, il faut que tu te battes sur le terrain même qui donne cause de la guerre. Il faut que tu te battes contre la capitale, hostie. Il n'y a pas d'autre solution. C'est un petit peu de lyrisme maintenant. Camarades, contre les appels à l'union sacrée et l'abandon de nos luttes, nous voulons intensifier la lutte des classes. Contre les appels à la conscience et au maintien des valeurs bourgeoises de nos dirigeants et dirigeantes, nous autres, on travaille à leur renversement. Nous appelons à unifier les luttes et les énergies de classe contre la guerre, à renforcer notre intervention commune dans les manifestations et les grèves, à passer de la lutte des classes à la guerre ouverte des classes et à bâtir les forces de la révolution ici et partout ailleurs dans le monde. En définitive, notre programme antimilitariste et anticapitaliste peut se résumer à un couplet de la vieille chanson de la Commune de Paris, l'International. C'est un couplet qui est interdit par Staline, l'abject crapaud mort il y a 50 ans. Il aurait pu faire la faveur de mourir bien avant. Le couplet dit, puis je pense qu'il y en a une couple ici qui le connaissent, puis faites-vous-en pas, je ne le chanterai pas. Les rois nous saoulaient de fumée. Paix entre nous, garrot tyran. Décrétons la grève aux armées, crossons l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils verront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Camarades, notre programme était, est, sera et restera toujours l'international. Non à la guerre du capital, non à la paix du capital. Notre seule guerre, la guerre de classe. Vive la révolution prolétarienne mondiale.